Pour faire écho à notre objectif de ce webinaire, qui est de répondre, encore une fois, à la question « Comment identifier et évaluer les compétences et les potentiels dans un contexte de transformation ?» Nous allons, autour de ce webinaire, articuler notre réponse autour de trois questions sous-jacentes, en fait, à savoir quels sont les impacts des transformations sur les entreprises, quelles sont les compétences les plus adéquates pour répondre à ces transformations aujourd'hui, et comment identifier et évaluer les compétences et les potentiels.
Effectivement, c'était important pour nous de faire un focus sur les transformations et surtout de quelles transformations on parle. Alors, c'est sûr que le monde bouge, il est en perpétuelle évolution et il oblige l'entreprise à s'adapter, à changer, à évoluer dans un environnement qui est toujours plus complexe et incertain. Je pense que vous avez entendu parler du monde VUCA. Alors, on a pu observer quatre grandes transformations ces dernières années. La première, ce qui a changé, c'est le rapport au travail, c'est le rapport au temps de travail. La deuxième évolution aujourd'hui, ce qui a changé, c'est le rapport à la hiérarchie, le rapport à l'autorité. Troisième évolution qu'on peut observer, c'est une diversité grandissante. Et enfin, quatrième évolution très importante, c'est la digitalisation, qui oblige l'entreprise à être beaucoup plus agile, à se réadapter en permanence. Et donc là, on l'a vu encore, hein, encore plus avec la Covid, avec ces nouveaux outils, on a dû s'adapter. Et on voit bien qu'il y a une intégration de la technologie dans l'ensemble des activités de l'entreprise. Et tout ça bouleverse nos méthodes d'apprentissage, les modes de communication et notre façon de travailler. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est ce que l'entreprise doit effectivement prendre en compte, hein, ces transformations dans son organisation. Mais l'entreprise, elle doit aussi se poser la question de l'impact de ces transformations sur les compétences. Ça veut dire qu'il faut se poser la question, quand je recrute, quelles sont les compétences que je vais aller chercher? Et pareil, en interne, comment je vais les identifier ou comment je développe ces compétences? Alors, si on reprend un peu nos quatre grandes évolutions, là, c'est justement par rapport au rapport au temps de travail. On va vers un mode de fonctionnement beaucoup plus hybride, avec du télétravail, avec du présentiel. Et donc, c'est important d'avoir des managers qui passent une logique de contrôle, de présentéisme, à comment je fais confiance, en fait. Comment je fais confiance à l'autre. Et ça veut dire comment j'arrive à lâcher prise. Parce que les gens, ils veulent être évalués au livrable et pas forcément à combien de temps j'ai mis à le faire. Et ils ne seront pas moins performants. Le deuxième point, c'est la coopération. On voit bien que c'est une compétence qui est très recherchée en entreprise. Et d'ailleurs, elle est un peu re-questionnée aujourd'hui avec le télétravail et comment je vais faire, ce que je vous disais tout à l'heure, pour manager des équipes qui peuvent être parfois à distance, qui peuvent être parfois sur site. Et donc, ces modèles hybrides peuvent menacer la coopération. Donc, il faut être plus vigilant. La deuxième transformation, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'évolution par rapport à l'autorité. Et donc, qu'est-ce que ça engendre en termes de compétences recherchées? Il y a aujourd'hui de nouvelles attentes par rapport à la hiérarchie, c'est-à-dire qu'on passe d'un management plus centré sur le contrôle, le pilotage, le descendant, à un management plus responsabilisant, plus autonomisant et centré sur l'humain. Et puis, alors, on veut aussi des managers qui soient capables de donner le cap, de donner une vision. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent être en capacité de comprendre comment le monde évolue et quels sont les enjeux des transformations qui vont impacter les entreprises. Et donc là, ce qu'on a voulu mettre dans les compétences, c'est peut-être celles qui ressortent et qui sont un petit peu plus importantes aujourd'hui avec des managers centrés vers l'humain, des managers vrais, des managers humbles. Et donc, ça veut dire qu'ils sont capables de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Ça veut dire que je suis conscient de mes forces, je suis conscient de mes faiblesses et je suis en capacité aussi de gérer, de maîtriser mes émotions, de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Alors, on peut passer à la slide suivante sur les enjeux de la diversité. Donc effectivement, c'est un enjeu qui est important aujourd'hui. Et ce qu'on a pu observer avec Karen, ce qui n'était pas le cas avant, dans les nouveaux référentiels de compétences de nos clients, c'est un point qui apparaît, c'est-à-dire comment je vais aller évaluer chez les personnes cette capacité à être ouvert à la diversité et à veiller à l'inclusion. Alors, ça veut dire quoi, en fait? Comment on peut le traduire en termes de compétences quand moi, je vais aller identifier et évaluer? La première chose, c'est d'être capable d'écouter. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre son point de vue en faisant abstraction de moi, mon propre point de vue, et de comprendre ce qui est différent, en fait, chez l'autre.
Oui, et alors du coup, par rapport à toutes les compétences vues là, les dernières compétences à ajouter selon nous, ce seraient toutes les compétences liées, comme vous l'avez vu, à la révolution digitale. Du coup, parce qu'elles font partie intégrante de l'écosystème de travail de tout collaborateur maintenant. Donc, les impacts du digital, on le sait tous, ils sont nombreux et l'entreprise doit intégrer cette révolution et l'anticiper. Alors, autant que faire se peut. Alors, en lien transverse avec toutes ces compétences que nous avons vues, avec Tatiana, nous ne devons ni oublier, ni négliger les compétences nécessaires pour s'adapter à ces transformations. On a déjà parlé d'adaptation, mais là, on parle, voilà, vraiment de changement et donc, d'adaptation. Qui dit justement transformation dit changement, c'est dans la définition même du changement, hein, la transformation, c'est le fait de rendre plus ou moins différent, de transformer, de modifier. Donc c'est le passage, hein, d'un état à un autre. Et en général, on connaît le point A, ça c'est sûr, mais il y a le point B, qui est un point d'atterrissage encore inconnu. Et c'est pour cette raison que le changement, on dit qu'il est étroitement lié à la notion d'incertitude. Parce que, comme on ne connaît pas tellement le point d'atterrissage, eh bien, on va perdre le cadre qu'on a défini, les repères qu'on a établis, l'équilibre, le contrôle sur les choses.
Alors, on l'a vu ensemble, hein, les transformations que connaissent les entreprises, on a vu les nouvelles attentes, les nouvelles compétences recherchées, mais finalement, bah, comment en fait on les identifie, comment on les évalue, ces nouvelles compétences. Et donc, la première chose, c'est de définir un référentiel de compétences. Donc, soit de définir, soit aussi toujours de se reposer la question de finalement, comme ça change tout le temps, est-ce qu'il ne faut pas que je revoie régulièrement mon référentiel de compétences? Et se dire, bah, quels sont les changements dans mon organisation, quels sont les impacts, quels sont les besoins futurs, les nouveaux métiers qui vont apparaître, et du coup, bah, de quelles compétences j'ai besoin derrière. Alors, quand on définit un référentiel de compétences, bah, derrière, on va définir, bien sûr, une compétence, mais je mets le point là-dessus parce que c'est important qu'il y ait une compétence univoque, c'est-à-dire qu'on parle le même langage et qu'on soit sûr qu'on va évaluer la même chose. Parce que là, si je vous demande à chacun, vous êtes une quarantaine, si je vous demande de me dire quelle est la définition, si je vous dis je cherche une personne dynamique, et en fait je vais avoir peut-être une trentaine de définitions différentes. Donc vous allez évaluer la personne avec ce que vous pensez qu'elle doit être quand on dit dynamique. Et moi d'une autre façon. Donc c'est important de bien définir la compétence en prenant des verbes d'action, hein, comme ben voilà, prendre une décision rapidement ou développer les collaborateurs. Et en dessous, il faut que je puisse décliner ma compétence en comportement observable. Donc si je dis développer les collaborateurs, ça veut dire quoi derrière? Ben, il va devoir identifier les points forts et les points d'amélioration des collaborateurs, est-ce qu'il fait des feedbacks négatifs, constructifs, etc. Donc la première chose, c'est vraiment de définir la compétence et être sûr qu'à chaque fois, c'est bien une seule compétence que je vais aller évaluer et pas plusieurs compétences dans une seule. Et puis, encore une fois, de le décliner en comportement observable. Et puis, c'est de se dire aussi, ben, quand je vais aller évaluer la personne, être bien sûr que le choix des compétences est en adéquation avec le niveau de responsabilité et le niveau de poste que j'ai en face. Et enfin, c'est mettre une échelle de mesure derrière chaque compétence, c'est-à-dire que est-ce que c'est quelqu'un par rapport à cette compétence-là qui sera à construire, à développer, est-ce qu'il est compétent ou est-ce qu'il est en force? Alors, on voulait faire un petit focus sur la compétence, parce que souvent, quand on parle de compétences, quand on parle de soft skills, les gens peuvent se dire, bah, c'est un trait de personnalité. Non, plus alors la personnalité, le trait de personnalité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus statique. Et la compétence, je dirais que c'est comme un muscle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Et comme on a repris aussi une définition de Claude Lévi-Leboyer, hein, qui est professeur en psychologie du travail, et en fait, elle définit la compétence justement comme la mise en œuvre intégrée d'aptitudes, de traits de personnalité et de connaissances acquises pour mener à bien une mission complexe dans le cadre de son entreprise. Donc ça aussi, c'est important. Cette compétence-là, elle va se mettre en place dans un contexte et dans une situation particulière. Alors, Ce que nous, on préconise, c'est justement la mise en place d'un assessment center, et c'est surtout cette combinaison d'outils pour être, je dirais, le plus objectif et le plus fin dans son évaluation.
Nous, on a noté quand même beaucoup d'atouts de l'assessment center et aussi des principes incontournables pour que ça fonctionne finalement. Et ce qui est important en amont, c'est vraiment de définir un modèle de compétences. C'est un contrat avec une entreprise, c'est se mettre d'accord avec une entreprise sur les compétences à aller chercher. Comme on a pu le voir, il y en a des nombreuses et on a vu qu'il y avait des mots qui n'avaient pas tous la même définition chez nous en tant qu'individu. Donc, c'est les compétences clés à aller chercher plus leur définition pour identifier les comportements observables. Après, ça dépend de la durée qu'on envisage pour un assessment center. Un assessment center, ça peut aller d'une demi-journée à une journée et demie, hein. Donc, il peut y avoir 6, 8, 10 compétences à aller évaluer. C'est aussi le principe, c'est vraiment une approche multidimensionnelle. Comme vous l'avez vu, plusieurs outils, donc de l'observation, finalement, des compétences à travers différents angles d'approche pour croiser les évaluations. Et nous, on met en place une matrice de compétences, c'est-à-dire une compétence qu'on va pouvoir aller challenger via des regards croisés au travers soit d'une mise en situation, soit de deux mises en situation, soit d'un inventaire de personnalité d'une mise en situation, etc., etc. Donc, des croisements. C'est aussi, comme vous l'a dit Tatiana, la dimension scientifique des outils. Les outils sont fiables, construits rigoureusement, notamment dans les exercices. Des outils pour tous, pour tout type de secteur d'activité, avec une adaptation si besoin. Alors, la logique, elle n'est pas forcément d'ailleurs de coller à son secteur d'activité, mais ça, c'est à discuter. L'idée est d'aller aussi chercher une décontextualisation, une rupture en situation nouvelle pour finalement sortir la personne un peu de sa zone de confort et qu'elle puisse mettre en exergue justement ses forces et justement qu'on puisse voir aussi certaines capacités d'adaptation. Le principe incontournable, c'est aussi une approche bienveillante et confrontante. Donc là, ça passe vraiment par la posture adaptée du consultant, hein, des consultants d'ailleurs, parce qu'on travaille en binôme, et toujours basé sur une égalité de traitement et d'équité. Et puis, c'est aussi le dernier principe, j'ai envie de dire, l'homogénéisation. En conclusion, on voit plusieurs résultats et bénéfices de l'Assessment Center. C'est d'abord pour l'ACC, lui, comme je vous l'ai dit, se confronter en dehors de sa zone de confort, se challenger, se projeter aussi sur un prochain poste, réfléchir à ses points forts, à ses axes d'amélioration, à ses points de vigilance, donner un aperçu de ses besoins en développement et en formation. Et puis, un apport pour l'entreprise pour fiabiliser ses prises de décision, que ce soit en mobilité interne, que ce soit en mobilité externe, s'assurer de l'alignement aussi avec la stratégie de l'entreprise et aux attendus d'une entreprise, à ses besoins, soigner sa marque employeur parce que c'est avant tout se soucier de chercher à mieux comprendre ses collaborateurs et les accompagner finalement individuellement.